Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la Basse-Marne.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche. Dans le cadre de notre série des travaux, des saisons et des jours, nous allons consacrer la séquence d'aujourd'hui au labour et au semail d'automne jadis en Basse-Marche. Pour les textes, nous avons fait appel à Paul Lavergne, un extrait de Récits de l'Ancien Temps, Albert Gourceau, La Société Rurale en Limousin et Basse-Marche, Charles Sylvestre, un extrait de Au Soleil des Saisons et de Cœur Paysan, Louis Peignot, un extrait de Bergère, Éternelle Bergère, et Gilbert Bégaud, un extrait de Histoire de la Charrue.
La Basse-Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche.
Ce que nous venons d'écouter est une bolée. Dans d'autres régions, on appelle ce chant des laboureurs à leurs bœufs le dariolage ou le briolage. Voici l'explication que nous en donne Paul Lavergne. À l'automne, à l'époque des semailles, on entendait jadis des laboureurs chanter pour encourager leurs bœufs. On appelle cela boler. L'homme composait sa bolée à mesure qu'il avançait avec le nom des bœufs, la longueur du sillon, la façon de la terre, de l'air ou du soleil. Son improvisation jaillissait de ce labeur accompli pas à pas avec son attelage. C'était un lent et long poème, jamais le même, avec des modulations, des reprises, des redites, une inspiration scandée par le travail. Les bœufs, liés aux joues, tiraient, échines tendues, cordes baissées, museaux fumants. Sensible à la parole et à la mélopée, outil vivant, sillon après sillon, il façonnait le chant. Les bons bôleurs ne manquaient pas. D'une terre à l'autre, de métairie en métairie, ils se répondaient. Les bergeronnettes accouraient et presque sur les talons de l'homme picoraient vers et insectes déterrés par le soc. De nos jours, le bruit des tracteurs a remplacé la bolée du paysan. Les bergeronnettes l'ont adoptée et comme autrefois, elles accourent pour picorer les vers. C'était gai dans mon jeune temps, dit Rose. Quand Alexandre des Bergeries bolait en labourant, il était le meilleur boleur du pays. Les autres ne lui montaient pas à la cheville. Il avait une façon à lui de terminer sa bolée en faisant un bruit de gorge, comme s'il cloquait un œuf en se gargarisant. Les gens du bourg allaient se promener sur la route exprès pour l'entendre. Ses bœufs s'appelaient Rouget et Frisa. À mesure qu'il avançait, ils tournaient leurs oreilles en arrière pour ne pas en perdre une miette. Et il marchait droit. Vous pouviez me croire. Inutile de les guider. La musique et la douceur les avaient dressés mieux que les coups d'aiguillon que certaines brutes leur donnaient.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Voici à peu près les paroles d'une bolée d'Alexandre. C'est difficile à dire parce que ce n'étaient jamais les mêmes. Les airs non plus. Ça dépendait du temps et du moment. Enfin, voici un exemple. Enfin, à peu près. Allons, mon Rouget, mon Frisé, mes mignons, mes gentils, qui marchent droit, qui tracent bien le sillon. Allons, mon Frisé, mon Rouget, encore un petit tour bien droit. Mon Frisé, mon Rouget, en suivant le sillon, il faut marcher droit, mes gentils et mes mignons. Nous finirons à midi si vous marchez bien droit. Allons, allons, mon Frisé, mon Rouget, profitons du beau temps. Demain, s'il ne pleut pas, nous sèmerons le blé, mon Rouget, mon Frisé. Et alors il faisait claquer sa langue et on aurait dit qu'il y avait du blanc d'œuf et du blé et toutes sortes de bonnes choses dans son cou. Alors, moi aussi, je faisais comme les gens du bourg qui se rapprochaient pour mieux entendre.
Thank you.
Si le paysan laboure, c'est pour semer. Mais lorsqu'il confie ses grains à la terre, nous dit Albert Gourceau, le cultivateur n'est en effet jamais sûr qu'elles ne seront pas dévorées, qu'elles germeront dans de bonnes conditions, qu'après leur germination, elles se développeront normalement, que la floraison ne sera pas contrariée, enfin que la récolte sera bonne et pourra être rentrée sans ennui. Car chacun sait que le résultat final ne dépend pas uniquement de sa compétence, de son habileté et de ses soins. Tout au long de leur cycle de végétation, ces cultures seront menacées par les parasites, le climat, etc. Choses contre lesquelles il est resté longtemps et reste encore fréquemment sans défense. De là, chez cet homme des champs, la recherche incessante d'une aide extérieure au monde physique dans lequel il vit et qui se traduisait autrefois, tantôt par la mise en œuvre de procédés magiques, tantôt par l'accomplissement de rites protecteurs formant un ensemble de coutumes et de croyances. Aussi, nous dit Louis Peignot dans « Bergère, éternelle bergère », le laboureur, prudent comme l'étaient ses pères, ne manque pas d'implorer la protection divine. Au soir des rameaux, il est venu piquer, à la lisière de chaque parcelle, une brindille de buis béni. En mai, 3 jours durant, le village va chômer pour prier avec plus de ferveur pendant les rogations. Quand la procession passe au pied de la croix du carrefour, chaque laboureur dépose sur le tertre gazonné une brassée d'herbes vertes, tandis que les femmes et les enfants jettent des fleurs sauvages et des jarretières de la Vierge cueillies dans le jardin. Dès la fin de l'été, on reprend les labours. Quelques proverbes ponctuent le calendrier. Sème tôt, sème tard, mais ne sème pas dans la boue. Sème à la Saint-François, c'est le 4 octobre, le blé sera plus épais. Dans « Au soleil des saisons », Charles Sylvestre lance ainsi la période des labours. De toutes parts, on reprend les labourages. La bonne semence est choisie. L'attelage des bœufs grince, traîne la herse, enfonce les crocs dans le sol. Tout est déchiré, lavé, mis à nu. Tout recommence. Rien n'est rompu. Tout meurt pour revivre. Et comme aux âges passés, après des siècles et des siècles, chaque sillon formant un rayon de l'humaine roue qui tourne, voilà que des hommes tranquilles, portant une charge de grains à la mesure de leur domaine, sortent de leur maison pour semer.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Nous allons rester un instant avec Charles Sylvestre, dans Cœur paysan cette fois. Le temps des labourages était venu. Blé rentré, foin tassé dans la barge, pommes jutant au pressoir. Il fallait reprendre la besogne. À travers les brumes, au-delà des haies, on entendait, prolongé par le vent d'ouest, l'appel du paysan guidant la marche de ses bœufs. Un invisible aiguillon piquait l'homme et les bêtes dociles, toujours aussi acérées depuis le matin du monde. Ils allaient dans l'odeur de la terre ouverte et le grand mystère s'accomplissait. La préparation, le façonnage de la terre est une opération particulièrement complexe. Albert Gourceau nous en donne le détail. La majeure partie des terres labourables, peut-on lire dans la statistique de 1808, après avoir donné une récolte, reste en jachère jusqu'à l'année suivante. On sème néanmoins dans quelques-unes avant d'y mettre le seigle ou le froment, du sarrasin, de l'orge, des raves ou des pommes de terre. Cette technique qui consiste à éviter le retour 2 ou plusieurs années de suite de la même plante sur le même sol, surtout lorsque cette plante est une céréale, s'appelle l'assolement. Précisons que la jachère n'est pas une friche. Il s'agit de laisser reposer la terre qui sera, normalement, remise en culture l'année suivante. Il a fallu attendre la deuxième moitié du 19e siècle et l'apparition des voies ferrées qui ont permis l'importation à bon prix des amendements calcaires et des engrais phosphatés nécessaires aux terres acides et froides de la Haute-Vienne pour voir progressivement disparaître la jachère. Les plantes ne peuvent être cultivées que sur un sol convenablement préparé, ce qui suppose l'exécution de trois opérations. Les trois opérations suivantes. Un défoncement qui a pour objet d'aérer la terre et de l'ameublir, l'extirpation des mauvaises herbes et l'enfouissement du fumier et éventuellement des engrais lorsqu'ils ne sont pas répandus en surface. Ce façonnage de la terre porte le nom de labour et s'exécute au moyen d'un instrument appelé charrue. Par la place qu'il occupe, tout au long du cycle d'opération qui doit, à partir d'une graine minuscule, aboutir à la formation d'une plante adulte, voire d'un arbre majestueux, le labourage constitue l'un des travaux importants et peut-être le plus important de tous ceux que doit entreprendre l'agriculteur.
Le pauvre laboureur, il a bien du malheur. Du jour de sa naissance, il est déjà malheureux. Qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il vente, qu'il fasse mauvais temps.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Après cette chanson du pauvre laboureur et avec Charles Sylvestre, dans Cœur paysan, nous partons labourer avec un dénommé François. François aimait la saison des labourages. Tout est à recommencer. Il faut du courage et reprendre un sentier que l'on trace avec la charrue. François sortit dans la cour. Il ouvrit la porte de l'étable et fit se lever Rouget et Callot. Il les attela à une charrette. Il plaça le soc à côté d'un panier où il avait mis du pain, une tranche de salé et une chopine de vin. Leur grosse queue tournoyante, les bœufs s'émouchaient. Les yeux saillants restaient mornes, pleins d'ombre. Ils mâchonnaient de vieilles besognes sous l'accolade du joug qui semblait les mieux unir pour les séparer plus parfaitement. Ainsi, chacun d'eux était mystérieusement seul dans un seul travail. François les toucha de l'aiguillon, tandis qu'il s'éloignait, une grande paix montait à son cœur. Il n'y avait pas de vent, aucun bruit. Il arriva dans le champ des vergnes, détella les bœufs et les lia à la charrue. Il allait, son long corps maigre penché en avant, les jarrets tendus, le regard sur le sillage. Parfois, il clignait de l'œil, cherchant un point de mire entre les bœufs. Il abattait beaucoup de travail. Là-bas, à l'autre bout, il choisissait pour le guider un chêne de la clôture qui vivait dans l'air. Et l'arbre semblait venir au devant de lui. Après 3 heures de besogne, le champ fut tout entier labouré. François détacha les bœufs et les flatta en leur tapant sur l'échine. Il s'assit au bord du buisson et mangea un peu de salé, un morceau de pain. Il but toute la chopine.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Si les labours d'automne pouvaient commencer dès la fin août, il était nécessaire de procéder avant de semer à 4 labours successifs, là où un seul suffit aujourd'hui. Le premier de ces labours s'appelait pré-cindre. Il ne faisait que lever la superficie de la terre et de la jachère. Le second se nommait tout simplement « retourner » parce qu'il consistait à mettre dessous la terre que l'on avait mise dessus au labour précédent. On désignait le troisième sous le nom de « tarsar ». Il s'agissait de tiercer, c'est-à-dire d'écraser par un large sillon la partie la plus courbée de la planche et donc d'égaliser la surface du terrain. Le quatrième labour s'exécutait en deux passages. On traçait d'abord de petits sillons et on y déversait le fumier. On jetait alors la semence et on donnait un dernier labour, dit labour de semence. Ce labour se terminait parfois aux approches de Noël. Au début du XXe siècle, nos paysans connaissaient deux types de labour. Un labour en billon, où les bandes de terre découpées par la charrue sont accolées deux à deux, laissant entre chaque groupe une raie, autrement dit un sillon. Plus rarement, un labour à plat, où les bandes de terre sont adossées les unes aux autres.
Labourer, labourer, c'est la joie du paysan. Labourer, labourer, ça fait bien passer le temps.
Pour labourer, il faut donc une charrue. Écoutons d'abord Louis Peignot dans « Bergère, éternelle bergère ». De son temps, les laboureurs poussaient leur arrière de bois partout où ils pouvaient pénétrer, sur les flancs et jusqu'au sommet des collines dans les rochers et la pierraille. Ils confiaient la semence du seigle à la terre brune, légère et fine comme la poussière. Mais cette terre qui ne recevait pas de fumier se fatiguait vite. Il lui fallait reposer une année sur deux. Alors, l'un des versants de la colline s'ornait de vastes espaces verts tendres au printemps, tandis que l'autre restait inculte et livré aux herbes sauvages peu exigeantes, servait de pâturage aux moutons. Les vieux regrettaient le temps où leur arrière de bois passait partout, même entre les rochers, pour retourner quelques pousses de terre légère et lui confier la semence du seigle. Les jeunes labouraient pourtant encore, mais s'ils traçaient des sillons moins droits, ils savaient mieux que leurs aînés creuser profond. À l'antique arrière de bois, à la chambige avait succédé la rabale, avec ses deux oreilles de fer. La charrue, avec son versoir et coutre de métal, enfonçait à présent profondément dans la terre son soc d'acier luisant. Il avait fallu alors un attelage plus robuste que les petites vaches efflanquées des ancêtres. De nerveux et vigoureux bœufs roux tiraient à plein joug depuis qu'ils s'élevaient dans l'herbe drue et nourrissante des prés assainis. Les travailleurs des champs n'étaient plus des laboureurs, mais des cultivateurs et des éleveurs. Dans l'arrière, toutes les pièces étaient en bois, sauf le soc qui était en fer. Au temps contemporain, on va voir apparaître en 1801 l'arrière de Mathieu Dombasle et au début du XXe siècle, la charrue Brabant. Son succès est dû à la qualité du travail exécuté et aussi à la facilité de conduite qu'elle présente. Elle évite bien de la peine aux laboureurs. Il suffit de la mettre en place au début du sillon qu'elle trace seule jusqu'à l'autre bout du champ. Ce n'est que rarement que le laboureur doit intervenir. D'autre part, la charrue Brabant double va permettre le véritable labour à plat, si nécessaire à toutes les machines modernes des récoltes, les faucheuses, les faneuses ou les moissonneuses.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dresser les animaux au joug est tout un art, fait de technique et de patience. Par tradition, il commençait dans la plupart de nos communes à carnaval. Il faut être un paysan particulièrement expérimenté pour choisir le bon joug, placer un fronteau de feutre pour ne pas blesser l'animal, lier le joug aux cornes par des courroies de cuir, les jouilles. Si les jouilles étaient mal liées, on risquait l'écornage. Et alors, c'était un grand malheur car l'animal devenait souvent inapte à tout travail. Aujourd'hui, comme on n'attelle plus les vaches, celles-ci sont sans cornes. Conseillons à nos auditeurs de se reporter à l'ouvrage de Michel Dupeux, Le patois de la basse marche, une page entière avec croquis et consacrée à l'attelage des bœufs.
Ma chanson est finie.
Long. L'ensemencement est un véritable travail d'artiste. Il faut d'abord soigneusement trier les graines et éviter les effets de dégénérescence. Pour cela, on faisait des échanges de graines, de semences, de village à village. Le panier à semer, souvent en éclisse de châtaignier, ne servait qu'à cela. Le semeur devait parfaitement coordonner ses gestes, lancer le grain au moment précis où il avançait la jambe gauche, s'il était droitier. Aussitôt après le semis, on procédait à l'enfouissement avec la rabale quand le champ est élaboré en planche ou avec la herse quand il est élaboré en laise. Les premières herses étaient en bois, par la suite elles furent en fer et composées de trois éléments articulés ensemble. Pour s'assurer de bonnes récoltes, les paysans de la basse marche font appel à plusieurs procédés plus ou moins magiques, nous dit Albert Gourceau. À Mézières-sur-Issoire, la veille de Pâques, au Dora, au moment même des semailles, on bénit le champ avec de l'eau bénite prise à l'église le jour de Pentecôte. À Nantia, à la messe de la Sainte-Croix, on faisait bénir un petit sachet de graines que l'on mélangeait à la provision réservée pour les emblavures. Très souvent encore, on plantait de petites croix de paille ou de bois dans un angle de la terre que l'on allait ensemencer.
C'est le moment crépusculaire, j'admire assis sous un portail ce reste de jour dont s'éclaire la dernière heure du travail. Dans les terres de nuit baignées, je contemple ému.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Quand le bouvier vient du labour, quand le bouvier vient du labour, plante son aiguillade, plante son aiguillade, trouve sa femme au coin du feu, trouve sa femme au coin du feu, la robe dégrafée, la robe dégrafée.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous avons consacrée au labour et aux semailles d'automne hier en basse marche. Pour les textes, nous avons fait appel à Paul Lavergne, Albert Gourceau, Charles Sylvestre, Gilbert Bégaud, Louis Peignot et Victor Hugo pour le poème des semailles. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au chant des laboureurs du Morvan, à Francis Poulenc, au groupe Maluzerne, les Trois Ménestrels, Tête de Chien, au chanteur Daniel Pomereau. Nous écoutons en ce moment le chant cathare « Quand le bouvier vient du labour » interprété par les Ménétriers, mais nous l'avons également entendu en cours d'émission, en version instrumentale et comme hymne cathare.
La mare, les pieds tournés vers la paroi.
Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec petites et grandes histoires de la basse marche.
La terre est morte ici, diront la terre est morte ici. C'est cette pauvre Jeanne, c'est cette pauvre Jeanne, s'en est allée.